C'est quoi là? Qu'est-ce qui fait que ce sont des tribus?
On peut dire qu'il y a quand même une sous-tribu.
Oui, mais ça vient beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, tu veux dire les Kohanim, effectivement, qui sont une partie des Levim, mais c'est pas très clair non plus, parce que souvent c'est marqué à Kohanim, à Levim, ensuite dans la Torah, etc. Puis là-bas, ils sont pas une tribu, ils ont un statut à part, quoi. Ça s'appelle les Bnei Aaron, quoi.
Et Jacob, on parle de tribu, ça
Que
peut
de
être.
Yaakov. Yaakov lui-même, il est. Alors il y a un problème, c'est tout ça commence. Yaakov, il est sur son lit de mort quasiment. Il est entouré de ses 12 fils. Et puis il dit, j'ai complètement raté mon coup. J'étais censé produire un peuple, et voilà que j'ai 12 peuples devant moi. Pourquoi t'as 12 peuples? Tous les gens qui ont une famille avec plusieurs enfants, ils savent très bien que les enfants sont différents les uns des autres. Il ne sait pas que les enfants sont différents les uns des autres. T'as regardé son frère, je veux dire. Et alors, et eux, ils le rassurent. Il lui dit, c'est vrai, on est 12 peuples, mais on est unis par quelque chose de particulier, c'est qu'on est tous Mamin Bachem Echad. Shema Israël, il s'adresse à lui, Israël, dans Shema Israël, c'est Yaakov, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem, c'est Hachem qui est notre Dieu, et on sait qu'il est un. Voilà, ça veut dire, qu'est-ce qu'on a, nous? C'est pas qu'on diverge à partir de la même source. Comme les enfants qui divergent à partir de leurs parents, nous, on converge. Alors, ce qui nous lie, c'est notre émouna. C'est ça qui nous rassemble, en quelque sorte. Et quand ils lui ont dit ça, visiblement, il est rassuré. Mais quoi, il ne savait pas. Tout le monde sait qu'il va avoir 12 tribus. Tout le monde savait. C'était connu. Les femmes, en tout cas, elles le connaissaient, donc les hommes aussi. Ils savent très bien qu'ils vont avoir 12 tribus. Donc, de quoi t'as peur quand tu vois que t'as 12 peuples en toi?
Donc, l'absence, ça veut dire tribu. L'absence, ça veut dire tribu.
Non, mais enfin, même quand ils disent peuple, ils veulent dire par là, il n'y a pas encore de notion de tribu, parce que, alors le mot tribu, lui aussi, il fait un peu problème. Chez les Latins, chez les Romains, ça vient des Romains, tribu, c'est une partie du territoire. Donc quand tu habites sur une partie du territoire, donc les Romains, hein, voilà, tu formes une tribu. Chez nous, c'est pas le territoire qui définit ça. On ne sait pas pourquoi ils sont appelés les tribus. Alors maintenant, il y a deux mots dans la Torah pour décrire les tribus, c'est ou Shevet ou Maté. Maté, qui donne au pluriel, c'est plus que. Enfin, c'est aussi Maté ou Matot, mais au pluriel. Et les deux veulent dire bâton. Shevet, c'est un sceptre, mais qu'est-ce que c'est un sceptre? C'est un bâton avec éventuellement des décorations.
Pas du tout la
C'est pas territoire, c'est un pouvoir, c'est le bâton. C'est le bâton de maréchal, c'est le bâton qui permet de frapper, c'est l'autorité, quoi, quelque part. On voit que, comme chef de tribu, il n'y avait pas seulement un bâton. Parce qu'on voit dans l'histoire de Yehuda, il y a plusieurs simanim, quelle que soit la façon dont on va traduire effectivement ce qu'il a donné en gage, en attendant à Tamar. C'est pas vraiment un bâton, si on peut parler, pas dire c'est. Mais dans la Torah, la notion de tribu, elle est caractérisée par le fait qu'il y a un bâton. Donc il y a quelqu'un qui a le bâton. Alors, dans la Torah, il y a un autre bâton. C'est le bâton d'Aaron, le bâton de Moshe, selon que était chez Yitro, toute une histoire avec ce bâton. qui a priori n'est pas du tout l'insigne de la. Mon cher a venu des parois parce qu'il a le bâton, quoi. Plus, très souvent le bâton d'Aaron. Et Aaron, il n'a pas de pouvoir politique. Pour l'instant, on ne sait pas très bien de quoi ça cause, quoi, finalement. Et pourquoi c'est. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette notion de tribu, elle a persisté même en Mitzrayim. Quand ils sont esclaves, ils sont quand même organisés en tribus. Et il y a une tribu qui a un statut à part, c'est la tribu de Lévi. Et d'où ça vient, ce statut à part? A priori, ça vient de la chose suivante. Quand Yaakov a compris qu'il était obligé de descendre en Égypte, il a envoyé Yehuda pour organiser les choses. Yehuda, c'est le roi. Quand il envoie Yehuda, tu arranges les choses. Mais il a envoyé Lévi comme Rosh Yeshiva. Il n'a pas dit à Yehuda que tu seras aussi le Rosh Yeshiva. Rosh Yeshiva, c'est Lévi. C'est possible qu'à ce moment-là, les Égyptiens, même quand ils les ont réduits en esclavage, il y a une espèce de respect de celui qui ont les livres, c'était pas encore des, ils sont pas des prêtres. Même à ce moment-là, la tribu de Lévi, elle a pas de prêtrise. La tribu de Lévi, elle va avoir quelque chose à faire avec la prêtrise, avec la Kehuna, seulement après le veau d'or, quand ceux qui étaient jusque-là les serviteurs d'Hachem, qui s'occupaient plus particulièrement de l'aspect Kedusha, Korbanot, etc., qui étaient les Prorotes, c'était les premiers-nés. Mais eux, ils se sont disqualifiés au veau d'or. Donc, ils ont été remplacés terme à terme. Plus, comme ça ne co correspondait pas, on a compensé avec de l'argent. Ils ont été remplacés terme à terme par les
Il a envoyé des lignes ou il a pas.
Lévi. Il a envoyé Yehuda comme roi et Lévi comme Rosh Yeshiva. Donc les enfants de Lévi, les descendants de Lévi. Alors, il y a quelque chose qui se passe dans le clan d'Israël. Bon, il faut peut-être aussi analyser. C'est qu'en réalité, au niveau des patriarches et des matriarches, c'est une seule famille. Ils sont tous des descendants de Terach. Terach a eu trois fils, d'accord? Et les fils, Sarah, c'est la nièce d'Abraham, parce qu'elle est la fille d'un de ses frères, Lot aussi. Lot, il est à la fois le beau-frère et le neveu d'Abraham Avinu. Ensuite, il y a Bethuel, qui lui vient du troisième frère, et qui est le père de Laban et de Rivka. Donc, Rivka, elle est aussi là. Et Rachel et Léa sont les filles de Laban. C'est-à-dire qu'elles sont les nièces de Rivka. Donc, c'est une seule famille, hein. Et après, le pouvoir dans les trois qui vont diriger le clan d'Israël, qui vont représenter le clan d'Israël, Moshe, Aaron et Myriam, voilà, frères et sœurs. Il y a quelque chose, c'est presque étonnant, presque un peu, on comprend un peu Korach, je veux dire, c'est ce truc-là, tu nommes ton frère Kohen Gadol, et après, c'est toi qui choisis, quoi, quelque part. T'as tous les pouvoirs, vous avez tous les pouvoirs là. Chez les femmes, c'est Myriam, et chez les hommes, c'est Moshe et Aaron. Pourquoi effectivement ça fonctionne comme ça? On aurait pu penser qu'on va distribuer, quoi. Non. Alors, en plus, le fait d'être tous les descendants de Terach et de Amtelai, sa femme. C'est pas glorieux, parce que vous vous souvenez, il y avait des malachim qui voulaient, négatifs, qui voulaient pas que la neshama d'Abraham Avinu descende dans ce monde. Donc ils étaient là à l'affût, sans arrêt, l'empêcher de descendre. Et au bout d'un moment, ils sont devenus intelligents, ils ont dit, au lieu de d'être tout le temps sur le qui-vive pour savoir est-ce que, faut être sûr de pas la rater pour que pas, qu'elle puisse pas descendre, on va la faire descendre dans un endroit où elle remontera jamais. Alors on a cherché le couple le plus pourri du monde. On a trouvé Terach et Amtelai. Alors comme ça, les Juifs, il y a ceux qui disent que les Chénégoïmes, ils descendent de la cuisse de Jupiter ou tout ce que vous voulez. Nous, on descend du couple le plus pourri que les experts, les malachim négatifs, ils savaient de quoi ils parlaient, probablement. Ils ont choisi le plus pourri. C'est ça. Nous, on est descendants du couple le plus pourri. Et il n'y en a pas un pour rattraper les autres, hein. On vient tous de la même famille. C'est un peu spécial aussi, quand même. Ouais. Donc, voilà, c'est. Bon, alors, on n'a pas avancé d'un poil, quoi, si vous voulez, simplement. Voilà, il y a plus de questions.
Rav,
Ouais.
est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que c'était peut-être une question de survie? C'est-à-dire que c'est sans doute pas évidemment un hasard qu'ils se constituent en tribu avant de descendre à Mitzrayim, puis après du don de la Torah et de la rentrée en Eretz, parce que peut-être que s'ils n'avaient pas été en tribu, il y a une organisation sociale. Et s'il y a une attaque du peuple tout entier, la preuve, il y a 10 tribus qui vont disparaître, il y en a deux qui sont restées. Peut-être qu'il fallait qu'il y ait une organisation différente, sociale, plus constituée, plus pour survivre.
Peut-être que c'est une façon de d'expliquer le, mais en, donc c'est à très long terme, quoi. Parce que les tribus qui vont disparaître, c'est bien plus tard.
Oui, mais oui. Mais donc peut-être que il faut se dire que pourquoi il y a eu des tribus avant d'aller à Mitzraïm.
Non, ok, mais en Mitzrayim, effectivement, tout s'est délité complètement. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une notion de tribu, mais on la voit pas vraiment à l'œuvre, quoi. On voit pas qu'ils se soient organisés en tribus. Il y a des tribus. On le voit surtout que quand, au moment où ils sortent, quoi. Quand ils vont sortir, on voit qu'il y a des tribus. Ils sortent sous forme de tribus, mais il faut, et on n'a pas de peuple du tout, puisque le peuple ne deviendra un peuple qu'au pied du Sinaï. C'est marqué à ce moment-là, marqué au singulier, il a campé, et on dit, ben, c'est le peuple qui a campé, ils sont devenus un peuple. Alors, pour pouvoir recevoir la Torah, ou bien c'est lié au don de la Torah, il devient un peuple. Mais quand il devient un peuple, on n'abolit pas du tout la structure tribale. Mais si tu veux fabriquer de l'unité, ben, il faudrait enlever la structure tribale. Or, on n'enlève pas. Par rapport à ce que dit, à ce que disait Bernard,
Oui, mais c'est difficile de s'organiser.
par la suite, bon.
Il y a autre chose dans l'inverse. C'est parce qu'il y a le but et il y a le chiffre.
Oui, alors après, ce qui va se passer, bon, on n'est pas encore, on va encore attendre un peu avant d'arriver au schisme. Et donc, on a affaire, il y a des tribus. Et le clan Israël, effectivement, il est organisé. Qu'est-ce qu'il faut organiser? Ben, il faut organiser comment on se déplace. Comment on se déplace, comment on campe, etc. Dans la partie nomade et la partie stable, en fait, les points où on s'arrête, les points où on bouge. Ça, c'est très, très, très codifié. D'accord? Effectivement, les tribus, le clan Israël, il va vivre autour du Mishkan. Par exemple, dans le veau d'or, Quand on décrit le Vaudor, on ne voit pas qu'il y en ait quelques-uns, une tribu plus particulièrement qu'une autre. On voit même pas, au moment où ils font le Vaudor, on voit pas que la tribu de Lévi sorte du lot. Elle apparaît seulement en sortant du lot quand Moshe Rabbeinu va détruire le Vaudor, il va les faire boire, et qu'il va dire, on va tuer tous ceux qui ont vraiment pratiqué l'idolâtrie, et il demande, Mil Hashem Elai, que ceux qui sont pour Hashem qui viennent vers moi, à ce moment-là, toute la tribu de Lévi vient. Et donc, là, il y a une singularité. Pourquoi il n'y a qu'eux qui viennent? C'est difficile à comprendre. Est-ce que vraiment il n'y a qu'eux qui viennent? Est-ce que ça veut dire qu'eux n'étaient pas partie prenante dans le Vaudor? Ou est-ce qu'ils ont fait tchouva plus vite que les autres, quoi? Sais pas.
Mais ils sont pas morts. Ils ont
N'y a
vu.
pas de mort. Pardon?
Ils n'ont pas
Oui, non. Mais le problème de la mort, c'est que les gens. Ils sont pas morts simplement parce qu'ils ont bu, ils ont été tués par les autres.
par
Les
les
uns
juifs.
ont, ouais, il a fallu tuer son frère, comme on dit. Donc
Lévi, c'était la
là,
tribu de Moshe.
pardon?
Lévi, c'était la tribu de Moshe, c'était sa propre tribu.
Oui, bon, à part ça, c'est la tribu de Moshe, d'Aaron, ouais, c'est juste. Mais alors. En vérité, c'est important que la tribu de Lévi se soit manifestée de la sorte, parce que à la suite du massacre de Shechem par Shimon et Lévi, quand Dinah a été violée et emportée, il y en a deux qui ont réagi, et ils sont allés faire la guerre, ils ont massacré tout le monde à Shechem. Et Yaakov, il n'a pas du tout apprécié, puisque même dans les brachot qu'il donne ses enfants au moment de sa mort, il dit, Shimon de Lévi, j'ai rien à voir avec eux. Ils ont tué, rien du tout. Disqualifié complètement. Donc, on dit, Lévi se requalifie à ce moment-là avec Moshe Rabbeinu au moment du Vaudor, et Shimon, non. Et Shimon, il s'enfonce, définitivement, si on peut parler comme ça, l'histoire de Zimri. Quand Zimri prend la Midianite et qui provoque Moshe Rabbeinu, etc., lui, Zimri, c'est un chef de tribu de Shimon. Et là, du coup, c'est Moshe Rabbeinu. Il donne rien, il donne pas de territoire, brachot, je veux dire, à Shimon. Mais bon, il ne s'oppose pas à ce que Yehuda lui donne un morceau. Shimon va avoir un territoire, mais c'est un territoire. C'est une partie du territoire de Yehuda. Yehuda a donné à Shimon une partie de son territoire. Et Moshe s'y est pas opposé. Donc, peut-être qu'ils voulaient se remarquer qu'ils n'ont pas droit directement. Maintenant, il faut bien qu'ils vivent quelque part. Bien sûr, on a dit beaucoup que c'était les nomades, que ils allaient aller enseigner, etc. Ce qui est très intéressant. En soi, un sujet en soi. C'est que pourquoi est-ce que c'est Shimon qui est un violent et tout ce qu'on veut, qui est disqualifié, c'est lui qui va aller enseigner la Torah. La Torah, elle recule pas devant les paradoxes. Alors, c'est vrai que les grands enseignants de la Torah, c'est les Levim. Parce que c'est les Levim, Kohanim, c'est leur job. C'est ce qu'ils font. Alors, on reste avec cette structure de.
Et
Cette
eux n'ont pas de
structure.
terre.
Pardon?
Et eux, on peut dire qu'ils n'ont pas de terre.
Alors, ils ne vont pas avoir du tout de terre. Lévi non plus n'a pas de terre, mais pas par punition, en quelque sorte, mais pour leur permettre de se consacrer uniquement au service d'Hachem, c'est-à-dire essentiellement à enseigner et aussi accessoirement la Avoda au Beth Amikdash, mais que j'ai souvent raconté déjà. Que quand on y regarde un peu plus près, on s'aperçoit que leur travail au Beth Amikdash, c'est 15 jours par an.
Oui, mais c'est quand même un statut de schnorreur.
Alors, c'est 15 jours par an parce que ils ont 24 groupes de Kohanim, et donc ils sont répartis le tout. Alors, c'est vrai qu'à Yom Tov, tout le monde est sur le pont, et qu'il y a aussi le back-office derrière, etc. Mais l'essentiel, c'est étudier la Torah et l'enseigner. C'est leur job.
Mais c'est des mendiants.
Alors c'est vrai, ils sont pas des mendiants, mais le clan Israël a des obligations de les nourrir. Et
Ben
alors c'est
oui.
vrai que ça donne une situation peut-être désagréable d'être dépendant pour manger de ce que l'autre va te donner. C'est vrai que l'autre, il est obligé de donner, mais pas à toi, il pourrait donner à l'autre. Et du coup, il y a les Kohanim qui avaient une bonne tête et qui recevaient beaucoup, tout le monde leur donnait. Il y en a d'autres qui avaient une tête qui revenait pas à tout le monde. Et ceux-là, ils avaient très, très peu.
Autant répondre par rapport à ça. Ça dépend aussi de la gouvernance chez les Lévites. Parce qu'ils pourraient dire, OK, toi t'as une bonne tête, toi t'as une sale tête, mais on partage tout après.
Oui, mais ça s'est pas fait non plus, hein. C'est pas fait comme ça. Il y a eu de. Et après les. Juste, alors ça c'est aussi un grand problème, c'est le passage de Korot à une certaine tribu ou une sous-tribu, peu importe. Moi, je vois ça plutôt comme un désastre, parce que ça fait une espèce d'État dans l'État, ça fait une secte, d'accord, qui finalement se sont pris pour mieux que les autres. On dit que les filles des Kohanim, elles n'acceptaient pas des Kiddushin avec une prouta, il leur fallait un dinar. Bon, je veux dire, non, on se marie pas comme ça. Donc, il y a, qu'est-ce qu'on gagne, pourquoi la Torah, elle a persisté? Surtout que quand tu as un peuple, tu pourrais dire, justement, il faut abolir toutes les barrières pour que le mélange se fasse. Alors, il faut dire probablement que un des éléments, c'est justement de garantir une forme de diversité. Parce que justement, chaque tribu va accentuer sa diversité. Donc, si les gens acceptent de vivre ensemble, on va avoir des échanges très intéressants parce que ils vont tout développer à leur manière. Chaque tribu va développer les choses à sa manière. Mais ça implique qu'on respecte l'autre et qu'il n'y a pas nous et les autres, pas du tout. Le grand problème le grand enseignement de la Torah, c'est que la Torah, elle dit que chacun a un rôle à jouer. Alors c'est vrai au niveau individuel, et c'est aussi vrai au niveau collectif. Donc ça va apporter de la diversité, on va garantir. Ouais. Mais ça, encore, c'est toujours dans l'hypothèse où on arrive à vivre ensemble. Alors, bon. Moi, j'ai un exemple sous la main de cette diversité. Bon, c'est les cantons suisses. La Suisse, elle s'est construite avec des cantons qui, au fur et à mesure, sont entrés dans ce qui s'appelle la Confédération helvétique. Au début, il y avait trois cantons, trois petits cantons au centre de la Suisse, qui se sont alliés. En fait, c'était contre le. Avant, c'était le. Les maîtres, c'était les Autrichiens, là-bas, l'Empire, à ce moment-là, au XIIIe siècle, et ils sont pour résister, et petit à petit, il y a des cantons qui sont venus se rajouter. Il y a encore eu récemment un canton, le canton du Jura, c'était une partie d'un autre canton, un grand canton. Les gens du Jura, qui ne parlaient pas la même langue que le reste de la tribu en question, et du canton en question, ils ont lutté pendant longtemps pour avoir leur indépendance, et ils sont devenus indépendants. Et donc, il y a un canton nouveau. Par exemple, Genève n'est entrée dans la Confédération qu'en 1815, alors que la Suisse, elle a été fondée en 1291. Donc, mais ils ont réussi. Il y a eu des guerres de religion entre eux, parce qu'il y a les protestants et les cathos. Mais finalement, ça s'est apaisé. Mais ça garde effectivement une diversité. Chacun est là avec sa langue, sa façon de. Il y a en plus, ils ont quatre langues. D'accord, deux religions, quatre langues. C'est beaucoup, quoi. Mais là, ils ont réussi. Bon, les États américains, sur ce modèle aussi, mais aussi, ils sont très jaloux de, par exemple, tu veux faire un diplôme d'avocat dans un État, c'est pas valable à côté, un État à côté. Il y a des choses qui sont absolument propres à chaque État, chaque État. Ils ont une cour suprême de chaque État, etc. Et, alors là aussi, dans les tribus, elles ont aussi une cour suprême, un tribunal suprême. Alors il y a un tribunal suprême de suprême qui est à Yerushalayim, qui est le Sanhedrin, qui est logé dans l'enceinte du Beth Amikdash. Ils ont une chambre à part qui est dans le Beth Amikdash. Et qui est vraiment, ça c'est l'instance absolument suprême. Mais chaque tribu a son, et on explique toujours que pourquoi est-ce qu'il faut que chaque tribu ait son tribunal? Parce que comme il y a des subtilités de la langue, par exemple, qui font que on parle pas la même langue partout dans le pays. Bon, mais à Marseille et à Paris, les mots ont pas le même sens. Donc si tu viens témoigner à Paris avec des mots qui sont spécifiquement, qui ont un sens différent à Marseille, le tribunal, il comprend même pas de quoi tu parles. Ou il risque de se tromper, de penser que, ah, il a dit ça, et pas du tout, il a jamais voulu dire ça, c'est dans son, ouais.
Et puis ça donne du travail aussi à plus de monde, hein.
Alors ça fait aussi travailler les traducteurs, etc. C'est aussi pas mal du point de vue du chômage, etc. C'est bien. Et, alors ça, on a gardé ça et la solidarité entre les tribus, elle n'était pas complète. Ça veut dire que après Yoshua, il y a une phase avant entre Yoshua et les rois, il y a une phase qui s'appelle la période des juges. Ça veut dire des juges, des shoftim. C'était la chose suivante, c'est que les ennemis standard d'Israël, c'était les Philistins, c'était les Palestiniens de l'époque, les gens de Gaza. Et il y avait seulement des guerres, mais il n'y avait pas tout Israël contre. Il y avait un certain nombre de tribus qui avaient été rasiées ou etc. par ces Philistins, qui finalement se sont soulevés et qui ont décidé d'un chef pour diriger la guerre, quoi. Et alors, ce chef-là, quand ils avaient gagné la guerre, il est resté le juge, c'est-à-dire il est resté l'espèce de roi momentané, mais pour une partie seulement pour les tribus qui étaient concernées. Il y avait pas de réponse de la totalité des tribus. Il y a même eu une fois un problème avec la tribu de Binyamin. Il y a eu un scandale dans la tribu de Binyamin, puisque il y a eu un espèce de, comme les gens de l'endroit, on appelle Pilegesh Begiva. À Giva, il y a eu des gens qui se sont comportés à peu près comme Asdom. Donc, ils ont violé, quasiment laissé pour morte une femme. Et donc, toutes les autres tribus ont décidé que il faut punir la tribu, globalement, la tribu de Benjamin, et donc décider que personne donnera sa fille en mariage à qui que ce soit, à quelque homme que ce soit de la tribu de Benjamin. Donc, il y avait un risque que la tribu disparaisse quasiment. Et comme ils avaient juré qu'ils ne donneraient pas, ils ne pouvaient pas revenir en arrière. Alors, ils ont trouvé une astuce, c'est que ils n'ont pas donné leur fille. Mais ils ont dit aux gens de Binyamin, venez et prenez nos filles, quoi. Ils n'ont pas donné, ils ont laissé prendre. Donc, il y a eu des mariages, et du coup, la tribu de Binyamin a revécu, quoi. Et puis ensuite, il y a eu un moment particulier. Il y a vraiment le peuple, a priori, c'est David et Shlomo. Et après Shlomo, chez Rehovam, c'est le schisme. C'est-à-dire, il y a un partage. D'un côté, deux tribus et demie, Yehuda, Binyamin et la moitié de Ménaché, et de l'autre côté, l'autre moitié de Ménaché et 9 tribus. Et le tribu, le grand royaume, c'est le royaume du Nord. C'est le royaume qu'on appelle le royaume d'Israël. Et les autres, ils portent le nom du royaume de Yehuda, parce que c'est Yehuda, la tribu principale du petit groupe Yehuda, Binyamin, moitié de Ménaché. Et c'est devenu deux royaumes qui s'opposent, donc qui se tirent dans les pattes, etc. Avec l'accord d'Hachem. C'est Hachem qui a donné à Yerovam, il lui a donné la royauté sur les 9 et demi. Ensuite, évidemment, ce roi, il a la grosse tête, il s'est imaginé qu'il... Voilà. Et du coup, il y a eu beaucoup de rois idolâtres là-bas. Finalement, il y a eu une guerre, ce royaume du Nord, il y a eu de mauvaises alliances, etc. Et Sanhérib est venu, en Assyrien. La Syrie est venue et ils ont déporté. Donc, ils ont vaincu le royaume du Nord et ils les ont déportés. Et on n'a plus trace d'eux, a priori. Et donc, le clan d'Israël, aujourd'hui, il est réduit, en fait, à 2 tribus et demie. Alors, probablement que il y avait des gens des autres tribus qui étaient peut-être en business ou je sais pas quoi, dans le royaume de Yehuda. Donc, si ça se trouve, on peut pas dire de façon certaine qu'on a perdu toute trace des autres tribus. Si Hachem a un projet, il a peut-être fait en sorte que il reste des gens des tribus du Nord, bon, qui même sont pas conscients obligatoirement de, qui sont ni de Yehuda, ni de Binyamin, ni de Menaché, mais qui sont des tribus du Nord, et qui se développent, et qui se sont développés. Donc, il y a probablement des descendants, encore des gens qui sont de toutes les tribus. Mais on n'en est pas, ça n'existe plus en tant que tel.
Encore, on dit ça, on parle pas de
Ah non, là, on est... Parce que les Lévites n'ont pas de territoire. Quand on parle, c'est... Ensuite, ils ont partagé les territoires. Mais les Lévites, ils étaient essentiellement du côté de Yehuda parce que ils sont liés avec le Beth Amikdash. Non, ça dépend si tu comptes deux, Menaché et Ephraim. Alors, il n'y a pas, on compte pas les Lévites.
Si on compte pas les Lévites, ça croit. Si on compte Ephraim et Ménaché, ça fait 13.
Si on comptait Lévis et Ephraim et Ménaché, ça fait 13. C'est ça que le compte, c'est 12, parce qu'on compte, les Lévis sont toujours comptés à part, etc.
Voilà, parce que donc, dans ce compte, on dit 9 Lévis, 2 Lévis, ça veut dire qu'on compte pas les Lévis.
Non, on n'a pas compté Lévis, ouais. Parce que les Lévis, ils sont autour du Beth Hamikdash.
Ouais, ok. Donc, on considère quand même qu'ils font partie de Lévis.
Oui, ils sont, oui, on parle d'eux, des Lévim, Kohanim. Et après, bon, ça a disparu. Après, ils ne restent plus comme conscients de leur appartenance à une tribu que les Lévim, Kohanim. Les autres, il y a des gens qui disent qu'ils sont contents de celui-ci, de celui-là, etc. Bon, même si c'est vrai, bon, il y a certains qui savent. Il n'y a plus... Ça a disparu, mais parce que beaucoup de choses ont disparu. Mais ça veut dire que tout au long de l'histoire, concrète, si vous voulez, on a gardé cette notion tribale. Donc, je dis que, il me semble, que tout l'intérêt... C'est cette histoire de diversité, en fait. Parce que c'est important, on voit très bien l'Agmara aussi. L'Agmara, elle discute et elle tranche pas, l'Agmara, en général. Et voilà, celui-là, il dit comme ça, je connais très bien, quoi. Ah, pour l'Alaha, on est bien obligé de trancher parce qu'on peut pas faire plusieurs choses contradictoires à la fois. Alors, on tranche. Mais c'est, on tranche en Alaha. Hein. Mais tous les tékous et toutes les marloquettes qui restent ouvertes, etc., Bon, c'est une façon de. Il faut que ça reste ouvert parce qu'on veut que les opinions en question, elles sont valables. Elles sont pas retenues là à la fin, mais elles sont valables.
L'effet positif une diversité qui a généré des produits particuliers de ça.
Si vous voulez des informations sur la situation telle qu'elle était quand il y avait toutes les tribus, on n'en a pas, c'est il y a très très longtemps. On n'a pas de, pratiquement pas de traces. Donc, et après, il y a plus.
On a des traces dans l'autre sens. On a des traces où c'était pas.
Ah oui, non, c'est pour ça que du positif, on n'a pas.
D'accord.
Il faudrait regarder quand est-ce que ça a dû donner quelque chose, c'est autant de David et Shlomo, disons. Mais la personnalité de David et de Shlomo, elles sont tellement, tellement grandes, tellement puissantes que on voit pas tellement que, puis, on voit des gens négatifs, des gens, etc., des personnages, quoi, des chefs de guerre, etc., des conseillers de David, de Doeg, Achitophel, ces gens-là. Mais je vois pas très bien.
Et là, est-ce que vous ne pensez pas quand même que en creux, enfin, voilà, on a peut-être eu plus d'armes dans Israël, on a parlé effectivement du schisme, bon, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une lecture, enfin, une lecture politique et de gouvernance? C'est-à-dire que c'est abandonner de sa souveraineté que de dire, alors qu'on est venu, il n'y en aura plus qu'un. Et il faut une culture, il faut une grande culture, enfin, une largesse d'esprit,
Mais pour ça, on a la
abandonner.
Torah. Pour ça,
Pardon? Oui,
on a
d'accord.
la Torah,
Mais c'est un
mais.
ressource matérielle. Parce que, OK, HMFA, d'accord. Mais maintenant, dans le Tarbes, on ne
Tarlé,
peut
c'est
pas
pour ça que je
rassembler
dis,
des
je ne
morceaux
sais
de
pas.
terrain.
C'est pour ça que je me demande pourquoi on a conservé ça, alors que ça n'a visiblement pas. Ça n'a rien donné. Ça
Je
ne.
pense que ça a été conservé parce que pour une matérielle. C'est pas philosophique ou pour mieux faire une somme. Et une autre question. Quand les notes chez l'autre, la sortie, c'est de dire, vous allez épouser quelqu'un de votre tribu.
Juste la première génération.
Juste la première
D'accord.
génération.
Oui,
Non, mais c'est quelqu'un de votre tribu. Ah,
ben, pour des raisons de territoire.
voilà.
Parce que ce que les gens de leur tribu ont dit,
On
mais
va
si
perdre.
ces filles, elles se marient à l'extérieur, on va perdre de nos territoires.
Oui, pas encore. Enfin, mais c'est dans le projet. Enfin, on voit bien quand même la dimension matérielle et que Moshe, qui a fait un exposé extraordinaire en disant elles ont le droit, il y a eu un bon agrément quand même. Parce que finalement, rien ne se perd.
Oui, enfin, c'était étonnant parce que finalement, par la suite, ça, oui, ça pourra se perdre. Donc, pourquoi il fallait qu'au moins au départ, ça ait eu lieu. Toute cette histoire de patrimoine, par exemple, c'est une chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Parce que le patrimoine de chaque famille ou tribu, etc., finalement, ça s'hérite. Donc, ils vont avoir de moins en des patrimoines de moins en moins importants. Chacun. Donc, au bout d'un moment, chacun a un confetti, quoi. D'accord? Celui il a un patrimoine de, je sais pas, de combien d'hectares. Et d'accord, mais seulement il a 10 enfants et ces 10 enfants, génération, ils ont aussi le nombre d'enfants. Tu partages le territoire en 100 parties. Il n'y a pas de prorata, alors ça ne fera pas 101, 102,
Mais ça
pardon.
fait un petit peu penser dans beaucoup de civilisations, en Europe, à l'intérieur de l'Europe, au Japon, tout ça, ça devient des seigneurs. Et c'est des petits seigneurs. Ils sur leur territoire, et le petit frère, il dit, c'est qui dépendra du grand frère. Donc, effectivement, tu as ton territoire, mais si tu n'es pas là, ils vont zigouiller en face. Donc, tu abandonnes le territoire, tu te protèges.
Oui, non, bien sûr, ça va. Je comprends très bien, mais ça veut dire que ce travail, parce qu'on travaille beaucoup, il y a une Macertote entière où on parle de cette histoire de patrimoine. Et là, il y a la halakhot très précise, comment ça va, comment tu le rachètes au Yovel, etc. Alors, quel patrimoine, c'est quoi le patrimoine?
Le Rambam, je ne sais plus très bien en quel terme, il dit que en définitive, on a tous vocation à devenir des Lévi'im, en quelque sorte. C'est-à-dire comme si l'organisation en 12 tribus était une étape qu'il fallait, mais que le but, c'est en quelque sorte de devenir des Lévi'im, c'est-à-dire des enseignants, d'être aussi d'une certaine manière au service des autres, d'organiser les relations et d'être finalement extraterritorial, paradoxalement. C'est-à-dire que l'organisation en tribu liée à un territoire aurait pour but de devenir à la fin extraterritorial, complètement détaché de la terre pour pouvoir se consacrer à ce qu'on appelle les tâches des Lévites, mais c'est curieux qu'on dit, il faut l'organisation tribu et le but, il est de ne plus être de tribu.
Ce que dit Rambam à la fin de Shemitah et Yovel, là-bas, le Rambam dit, à titre personnel, il dit, tout celui qui veut se consacrer entièrement à l'étude,
Ah oui.
le Rambam dit, je l'assure qu'il sera pris en charge comme les Lévites sont pris en charge. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire. Il dit que celui qui veut le faire, il peut le faire, il sera pris en charge. Bon, alors ça veut dire, le problème c'est, ok, il sera pris en charge, mais ça ne dit pas du tout que qui que ce soit a une obligation de le prendre en charge. Une espèce de confiance dans le clan Israël, qu'on trouvera quelqu'un qui va le prendre en charge. C'est ça que dit Rambam. Que tout le monde, normalement, à la fin des temps, parce que pour qu'on puisse se consacrer tous, en théorie, à l'étude de la Torah, il faut que quelqu'un fasse le job. Et ceux qui sont appelés à faire le job, ben c'est les goïms. Ça veut dire que ça marchera seulement quand les goïms auront reconnu Hachem, qu'ils ont reconnu que ce qu'Israël fait, c'est ce qu'il faut faire pour Hachem, et que c'est leur intérêt d'entretenir les goïms, comme nous sommes censés avoir reconnu que c'est notre intérêt d'entretenir les Kohanim et les Lévim, etc., parce qu'ils font un travail au Beth Amikdash ou dans l'étude, etc., dont nous avons besoin. Donc, c'est-à-dire que, au lieu que ce soit une partie du clan d'Israël qui entretienne une autre partie du clan d'Israël, ou bien c'est une partie de l'humanité qui va entretenir une autre partie de l'humanité quand il y aura une unité. Donc, de la même manière que par rapport au Lévim, ça marche seulement s'il y a une unité, c'est-à-dire seulement si le peuple joue le jeu. Si le peuple, bon, ils ont des obligations, mais c'est fait comme une obligation. Donc, si les goïms comprennent, si on arrive à un temps où les goïms vont comprendre que c'est l'étude, c'est tellement fondamental qu'il faut qu'il y ait des gens qui se consacrent entièrement à l'étude, et ça incombe au Bnei Israël, mais du coup, ils seront volontaires pour entretenir les Bnei Israël, pour que les Bnei Israël développent la Torah. Enfin, ça, c'est vraiment l'intérêt de la vôtre, je veux dire. C'est pas prévu dans le développement standard des choses.
Pourquoi le chiffre de 12?
Parce que 12 a pas mal de dénominateurs, donc de diviseurs, donc c'est très bien. C'est mieux que 10 qui n'en a que 2.
Mais ça exprime aussi une complétude, une certaine.
Pourquoi c'est plus complet? Parce que ça a plus de
Parce que,
dénominateurs.
oui, peut-être, mais oui.
La Torah, elle est plutôt sur un système décimal. Et pas le, il n'y a que là-dessus qu'on passe à 12. Alors après, il y a les mois et il y a le temps. Le temps, lui, les heures aussi, elles sont... Bon, eux, c'est aussi des diviseurs, c'est des secondes, mais après les secondes, ils ont des halakim, c'est-à-dire des 18, quoi, et pas 12. Donc voilà, les éléments que je voulais donner pour qu'on puisse un peu discuter de c'est quoi cette histoire de tribu, quoi, finalement. Ce que j'espérais, si vous voulez, c'est que dans la discussion, on arrive à trouver quelque chose d'autre, de positif de cette structure tribale qu'on continue de garder. C'est vrai qu'il y a des avantages, c'est vrai que peut-être la notion de le peuple, c'est trop grand pour qu'on ait vraiment des relations avec tout le monde, donc il faut peut-être passer par un stade de tribal et qu'ensuite les tribus travaillent ensemble, mais en tant que tribu.
Au moment de la sortie du il n'y a pas on va dire à l'entreprise, on ne connaît pas le film, on n'a pas compris comment ça s'est passé.
J'étais pas au cinéma, j'avais pas vu le film.
J'ai loupé la sortie. Et donc on peut imaginer qu'il s'est aidé de l'acide tribu qui n'était pas encore nommé, enfin, pour les faire avancer. Mais ce qui est très intéressant, c'est que son beau-père, lorsqu'il va lui donner un système d'organisation, lui, il cherche la notion de tribu.
Oui, c'est ça. Il donne des par 10, par 100, par 50.
Et on sent pas, enfin, je n'ai pas particulièrement étudié, mais que personne ne le fait. C'est accepté.
Parce qu'Hachem accepte. Parce qu'Hachem voilà. Dit à Moshe.
Non, mais les tribus n'est pas contesté. Parce que là, quand vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des tribunaux régionaux.
Mais parce que à l'intérieur de la tribu, on a fait ce que Yitro a dit à l'intérieur des tribus.
Mais d'une certaine manière, ça vient contester le fait de faire en transversal. De faire en transversal, c'est-à-dire que je vais nommer indépendamment que tu sois, parce que bon, c'était idiot, c'était sur le niveau de compétence. Et de capte d'expertise que tu es un chef de guide, le
sens. Oui, mais après, mais ça s'est inscrit dans la structure tribale. Oui, c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, on a cette critique de la notion de tribu.
Je reviens sur la notion matérielle. Là encore, quand il faut donner l'argent, qui va chercher l'argent? Quand on demande tu vas faire un chute à Shekel, qui va chercher l'argent dans les familles? Il faut qu'il y ait bien des gens à qui on va respecter pour dire oui, je vais donner. Je pense que, puisque là c'est au niveau individuel dans les familles, c'est peut-être plus facile si c'est quelqu'un qu'on connaît. Que quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui ne connaît pas combien on a d'enfants, et dans lequel vous voyez pas la.
C'est vrai, si vous voulez, quand il y a des recensements, d'accord, des recensements, alors on dit, voilà, ils sont venus devant Moshe et Lazare en général, ou Aaron avant, et un membre de leur tribu pour les rassurer, parce que se trouver brusquement devant Moshe Rabbeinu, c'était trop impressionnant. Les gens, ils risquaient de perdre un peu les pédales. Alors, il y avait quelqu'un de chaque tribu qui était là pour rassurer celui qui était compté par Moshe Rabbeinu dans le décompte. Il disait, Moshe Rabbeinu, demandez-moi là qui tu es, etc. Tu parles pas devant Moshe Rabbeinu. Donc, il y avait quelqu'un qui était là de sa tribu, comme tu dis, c'est... Il faut rassurer, il faut pour être en pays de connaissance. Alors c'est vrai que c'est plus facile quand on a quelqu'un de sa tribu plutôt que un total étranger, quoi. Alors c'est, on peut dire, hein, c'est une situation de confort. Plus facile de faire confiance à des gens qu'on connaît. Est-ce que c'est ça la raison? Non.
Et bien sûr, vous avez discuté tout à l'heure, il a une peur. Et même à un moment, parce qu'il y a la question, c'est le argument entre eux. Que argument vous êtes d'accord, que c'est leur point vers lequel ils couvrent, d'accord, mais ils ont peur que lorsque le père va mourir, est-ce que Yosef ne va pas les égouiller, enfin, toutes ces paroles croisées. Donc, il a peur de cette notion de argument.
Mais voilà, il est quand même rassuré. Quand il lui dit ça, ça le rassure. Ça veut dire que il y a quand même une valeur suprême qui va vous, le fait que vous reconnaissez qu'Hachem est Echad, ça, et que c'est lui votre Dieu, bon, disons, ça va vous obliger. Vous ne pouvez pas pouvoir faire n'importe quoi. D'ailleurs, Yosef, quand il veut les rassurer, il dit, je suis pas Dieu, moi. Tachat Elokim, maintenant. Est-ce que quelqu'un a comme ça une idée qu'on pourrait dire de cette structure tribale, au-delà de ce qu'on a déjà dit?
Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt également politique, une vision permettant justement cette convergence vers HM, mais néanmoins avec, pour reprendre vos propos, une diversité qui permettrait de façon peut-être plus efficace à ce que chacun puisse, puisqu'on parle de 12 peuples quand même, que chacun puisse trouver sa place et se rattacher à une façon bien à lui. De penser les événements, de se retrouver peut-être plus aisément avec des gens dont il a l'impression, sans doute à raison, d'être plus proche, puisqu'il y a quand même une géographie des tribus. Donc quand on habite un même pays, une même région, on travaille le même type de terre, enfin voilà, il peut y avoir ici quelque chose que je pense aussi, je réfléchis aux difficultés que l'on vit dans ces démocraties pour que l'ensemble de la population se sente réellement représentée par ses représentants au sein d'un Sénat ou d'une Assemblée. Voilà, peut-être.
Mmh. Oui, c'est une possibilité. J'ai aussi pensé peut-être que cette idée d'avoir des tribus, différentes tribus, et qu'ils soient obligés de travailler avec des groupes en face d'eux, peut-être que c'est une façon de préparer l'avenir où il va falloir travailler avec les goyim, quoi, quelque part. Est-ce que on va travailler avec à la fois prendre l'habitude de d'être confronté à des autres, à des gens qui sont différents quelque part. Parce que si on est confronté tout le temps avec les mêmes gens, ben on n'a pas de défense non plus, on n'a pas de culture qui vous permette d'entrer en relation avec quelqu'un qui est complètement différent. Alors on peut dire que ça pourrait avoir servi, si vous voulez, y compris pendant le galout. Dans le galout où on est plongé dans un milieu qui est hostile, qui est, etc., le fait d'avoir été obligé déjà de dealer avec des gens complètement différents, peut-être que ça a donné une certaine capacité au clan d'Israël de résister et de ne pas être complètement assimilé. On voit que ça n'a pas marché pour les 10 tribus, quoi. Quand même, le grand royaume du Nord se sont fondus. Ils ont été déplacés et visiblement, ils n'ont pas, a priori, pas résisté. Ils ont disparu de la circulation. On les a perdus. D'un autre côté, les Bnei Israël, dans tous les galouillotes, dans toutes sortes de galouillotes, on était confrontés à toutes sortes de peuples. Complètement. Ouais, bon, visiblement.
On n'a pas tout simplement copié sur ce qu'ils faisaient dans la région. Il n'y avait pas aussi un système de tribus comme ça.
Oui, mais en général, la Torah, elle est quand même suffisamment, disons,
indépendante.
Ouais, indépendante et suffisamment originale, si on veut, pour avoir imposé éventuellement une autre structure. Si on pensait. Même à supposer qu'effectivement, Esav aussi, il a des tribus, et les autres aussi ont peut-être aussi des tribus. Bon, on a fait jouer un autre rôle aux tribus, elles ont un rôle dans le travail du clan d'Israël, alors ceux-là vont développer plutôt ça, et plutôt ça, etc. Chacun a un rôle à jouer en particulier. Ils sont vraiment un peuple. Alors, est-ce que les tribus, est-ce que les autres tribus, quand il y a les notions de tribus, on a l'impression que c'est vraiment un peuple, quoi. Il n'y a rien à voir avec l'autre, avec les autres. Et éventuellement, ils vont faire des accords parce que c'est leur intérêt. Mais les Israël, ils n'ont pas tellement le choix, quoi. C'est-à-dire, quelque part, vous êtes des tribus, et néanmoins, on vous impose de travailler les uns avec les autres. C'est des tribus, mais des tribus à l'intérieur d'un peuple. Pas seulement dire nous et les autres, on n'a rien à voir avec eux. Quand tu es obligé d'avoir affaire avec eux parce que tu n'es qu'une partie d'un clan.
Il y a une complémentarité. Il y a une complémentarité quand on parle de
Mais ça, c'est une complémentarité. Bon, ont décidé que ouais, on peut faire les choses ensemble. Complémentaire, l'un il fait plus de business et l'autre il fait plus d'études, ils peuvent très bien être côte à côte et pas obligatoirement faire un accord. Je te donne ma part et dans ce que je fais, tu me donnes la part dans ce que tu fais. On voit très bien que les tribus voisines autres que Issachar et Zvouloun n'ont pas fait, ils ont d'accord. Quand ils étaient 12 tribus, on aurait pu imaginer qu'ils se groupent par deux, alors, si c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'effectivement, il y aurait eu une complémentarité entre Issachar et Zvouloun et pas entre les autres? Simplement, ils ont décidé. C'est une volonté. On a décidé de faire les choses ensemble. Oui, d'accord, mais bon, encore une fois, on peut très bien imaginer que on n'a rien à voir les uns avec les autres. Vous avez des pays qui sont limitrophes, qui sont sur l'océan en même temps, les uns à côté des autres, ou sur la Méditerranée, qui n'ont rien à voir ensemble. Les Libyens, les Tunisiens, les Algériens et les Marocains, ils ne sont pas obligatoirement en poule.
Est-ce que ce qui nous dérange, est-ce que on pense que le fait qu'il y ait une distribution et pas de chef pour les mener, et un conseil des tribus et à la fin, est-ce que on est un peuple, mais il n'y a personne qui nous dirige. Je ne crois pas que dans la Dommage, Moshe, surtout Moshe, prône un système politique. Tout à l'heure, vous avez dit avec un grand chef. Le roi, c'est Beth Yehuda. Mais il y a Moshe qui a le pouvoir. Qui incarne le pouvoir spirituel. Et puis, il y a cette idée qu'il doit y avoir un roi, peut-être. On laisse la possibilité qu'il y ait un roi sans que on en fasse une militaire promotion, et on se met à dire ce qu'il peut y avoir, et puis c'est une date. Et donc, j'ai l'impression que depuis le début, on sent qu'il peut y avoir des antagonismes entre quelqu'un qui, et on a vu les dérives d'après, qui aurait un pouvoir politique qui serait distinct du pouvoir religieux, et évidemment, les dictateurs, et ce qu'ils veulent, c'est concentrer les deux. Et je trouve très fort que Moshe ne cherche pas à installer ses enfants.
Il a demandé, famille. Mais ça ne lui a pas été accordé.
Voilà. J'ai l'impression que dans la Torah, on dit qu'on pourrait avoir, évidemment, si une arbitre, si les frères entre eux travaillent et vivent ensemble, on n'a pas besoin de te mettre, parce que c'est une utopie, hein, un chef au-dessus, on se partage la même loi, le même chef, et à partir de là, on est suffisamment intelligent, on n'a pas besoin de prendre un gars qui. Voilà. Et en fait, ça ne tient pas. Et en fait, on n'y arrive pas. Enfin, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que lorsqu'il y a cette dispersion de petites tribus, on se fait goûter par les voisins qui sont plus gros, plus forts. Et que c'est quand il y a un gars qui s'appelle David et qui arrive à dire bah, c'est quoi le bilan de notre histoire? C'est de se faire à chaque fois étaler. On va essayer peut-être de se réunir. On va mélanger un peu notre argent et nos hommes pour faire une armée et au passage, ça prend pas de cher. Et puis ils ont dit ouais, t'as raison. Et là, et c'est un moment, me semble, hein, où il y a à nouveau, mais pour le bien cette fois-ci, fusion du pouvoir politique et incarnation aussi du pouvoir spirituel, à un moment, avec David et un petit peu avec Shlomo, et encore, après, ça fait cool parce qu'il y a des dérives, c'est des gens extraordinaires peut-être qui peuvent, sans abuser du pouvoir, faire les deux. Un homme et son fils,
il faut dire que si on veut regarder les deux royaumes, l'un des royaumes c'est Yehuda, et la grande tribu de l'autre royaume c'est Ephraïm, c'est-à-dire c'est Yosef. Donc on retrouve de nouveau cet affrontement entre Yehuda et Yosef, donc un affrontement qui continue toute l'histoire en réalité. Toujours ce problème, Yehuda Yosef. Qui est-ce qui est le chef, en fait? Parce que Yosef, il est le premier-né de Rachel. Et donc, pour Yaakov, c'est normalement le premier-né qui aurait dû être premier-né, ça doit être le premier-né de Rachel. Donc, Yosef, il a un statut à part. Et Yehuda n'est pas le premier-né de Léa, mais parce que ceux d'avant qui sont les trois avant lui, c'est pas bon, quoi. Donc Yehuda, il est choisi presque par défaut, quoi, quelque part. Et cette idée que il apparaît presque un choix par défaut, il se retrouve dans Matan Torah. Ça veut dire quelque part la Torah est présentée d'abord à tout le monde, et puis après tout le monde l'est refusée. Alors que beaucoup il la présente au Bnei Israël. Puis à eux, même s'ils ont des difficultés à accepter, on va les aider. Donc, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que ça continue. Bon, si vous voulez, j'avais pensé un temps que on pourrait en faire un vrai sujet, mais je vois pas que. On n'a pas assez de matériel. Moi, je n'ai pas assez de matériel, si vous voulez, pour pouvoir continuer de réfléchir ici. J'ai l'impression que j'ai dit ce que je savais. Je vous ai écouté, vous n'avez pas produit non plus. C'est un peu compliqué. Et donc, on va changer. Je ne vais pas continuer là-dessus parce que peut-être de temps en temps quelque chose. Était roi. Et Shmuel était roi aussi. Ils étaient des rois sans cour. Et c'est vrai que la Torah, elle dit, elle envisage qu'on puisse avoir besoin d'un roi, et c'est possible, mais quand les Bnei Israël disent qu'ils veulent un roi, Shmuel leur dit, mais voilà, on a Hachem. Et Hachem dit à Shmuel, c'est pas toi qui veulent pas, c'est moi qui ne veulent pas. Ils veulent pas de moi comme roi. Hachem propose, c'est d'être lui le roi. Bon, ça veut dire quelque chose de vraiment original, quoi. Ça veut dire d'avoir un roi, mais qui est en dehors du monde, quoi. Quelque part, qui dirige le monde, qui possède le monde, mais qui n'est pas un roi. Concrètement, par la suite, le roi, quand il y aura un roi, il va être soumis au Sanhédrin. Quand le roi, vous savez, dans le Rambam, les lois concernant le roi, elles s'appellent Ilchot Melachim ou Milchamotehen. Les lois des rois et de leur guerre. A priori, les rois, enfin les juges, enfin c'est à l'époque des juges, ils devenaient rois parce qu'ils avaient fait la guerre. Ils étaient qualifiés. Et le Rambam, quand il décrit le Mashiach, bon, il dit, voilà, il y a quelqu'un, on soupçonne peut-être c'est lui le Mashiach, et c'est seulement s'il fait les guerres d'Hachem, entre autres, qui sera vraiment le Mashiach. Alors on saura qu'il est Mashiach. Mais s'il fait pas les guerres d'Hachem. Donc, même le Mashiach, pour se qualifier quasiment, il y a des guerres à faire et il faut qu'il les fasse. Et le problème de la guerre des rois, c'est le grand problème. Finalement, le candidat Mashiach qu'on a eu, un très célèbre, qui est le roi Hizkiyahou, d'accord, il était quasiment Mashiach. Dans tout le pays, la Torah a été étudiée, tout ce que vous voulez. Et pourquoi il devient pas Mashiach? Effectivement, on dit toujours parce qu'il a pas chanté, mais il n'a pas chanté, ça veut dire il n'a pas été capable d'attribuer la victoire qu'il a eue, d'attribuer entièrement à Hachem. Vous connaissez l'histoire. Il y a des rois qui, après David, qui disent à Hachem, bon, ils ont bien compris qu'en réalité, quand ils font la guerre, il faudrait attribuer. C'est ce que faisait David. Il se battait comme un lion, etc. Mais ensuite, quand il avait gagné, il disait, c'est Hachem qui a gagné la guerre. Ils disent, nous, on n'est pas capable. Si nous on fait la guerre, on peut pas ne pas s'attribuer le mérite de avoir fait la guerre. Et celui qui va demander le plus, c'est Hizkiyahou. Il va dire, moi, pour être sûr que je m'attribue pas le mérite de la guerre, il faut que la guerre soit gagnée pendant qu'on dort. Et il gagne la guerre pendant qu'il dort. Pour le fait que les ennemis s'imaginent qu'il y a beaucoup de monde, etc. Il s'enfuit, il laisse un butin gigantesque, etc. Ok. Le matin, il se réveille, il a gagné la guerre. Il devrait maintenant être capable de dire, c'est Hachem qui a gagné la guerre, tu dormais. Un miracle extraordinaire qu'Hachem a fait, là, de nous faire gagner la guerre pendant la nuit. Donc, le clan Israël, il a un mérite incroyable. Quel mérite ça pourrait bien être? Un mérite qui fasse que l'on mérite de gagner une guerre en dormant. Il n'y a que la Torah qui puisse donner un mérite pareil. Oui, c'est vrai, tout le monde étudie la Torah. Il aurait dû s'arrêter là. Il dit, mais ça, c'est étonnant quand même que tout le monde étudie la Torah. Alors, en fait, ça dit que il a planté une épée devant le Amikdash. Il a dit, tout celui qui étudie pas la Torah, il sera passé au fil de l'épée. Ah oui, alors c'est un peu moi qui, c'est grâce à moi qu'ils ont tous étudié la Torah. Donc le mérite, en fait, de gagner la guerre grâce à la Torah qui a été étudiée, c'est un peu moins, quoi. C'est fini, ça chante plus. C'est incapable d'attribuer le mérite à un chef. C'est ça le grand problème. Imaginez-vous que demain matin, on vous dise, c'est toi le Mashiach. Vous voyez, vous n'allez pas attraper la grosse tête. Sûr. C'est ça le problème. Bar Kokhba, pourquoi il est, ça n'a pas marché? Attraper la grosse tête. Du coup, jusque-là, ça allait au départ, il écoutait ce que Rabbi Akiva lui disait. C'est l'état. C'est ça le grand problème de Mashiach, c'est d'être roi et d'attribuer le mérite, de reconnaître que c'est en vérité Hachem qui fait tout. Et ça, c'est infiniment difficile, semble-t-il. Même quelqu'un comme Hizkia qui est presque, il a coché toutes les cases, sauf celle-là. C'est un grand, grand problème. Peut-être c'est ça, hein, les problèmes de Yosef, Yehuda, dans deux façons différentes de voir les choses. Qu'est-ce qui est le plus proche d'être Mashiach, quoi?
Que tout le monde étudie la Torah, parce que c'est grave de dire qu'il y avait quelqu'un qui a su bien les mener.
Pardon, c'est?
Pour que tout le monde étudie la Torah, il
fallait bien
que c'était quelqu'un qui
les pousse. Oui, mais c'est pas parce que tu les pousses que ça marche. C'est pas parce que c'est bien qu'Hachem t'a donné d'abord l'idée de les pousser, et puis ensuite les moyens de les pousser. Le pouvoir de conviction, etc. Hizkiyahu, c'était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. L'histoire de Hizkiyahu, elle commence, on parlait comme ça, quand son cousin, il était le cousin d'Ishayahu, c'est le cousin du prophète Ishayahu, Hizkiyahu, son cousin. Et son cousin, il arrive, il lui dit, prépare-toi, tu vas mourir. Et moi, mourir, pourquoi tu veux mourir? Parce que t'es pas soucié, en quelque sorte, de l'avenir du clan Israël. Il s'est pas marié pour pas avoir d'enfant. C'est une raison pour mourir. Bah, quelque part, si tu n'assures pas que tu vas avoir des enfants, d'une certaine manière, si tu pourrais en avoir et que tu fais ce qu'il faut pour pas en avoir, ça veut dire que tu refuses le futur, quoi. Tu ne veux pas développer le clan Israël. Je dis, mais moi, la raison pour laquelle je voulais pas d'enfants, c'est que j'ai vu le roi à Kodesh. J'ai vu que mes enfants, les enfants que j'aurais, ils seraient pires que ces idolâtres de première grandeur. Et alors là, il y a cette fameuse phrase que Ishaïa lui dit, il dit, ben, des cafés de Rachmana, la Mazar, c'est pas ton problème. Tu n'es pas en charge de garantir l'existence du clan Israël. C'est-à-dire, c'est un peu paradoxal, parce qu'on vient lui dire, si tu fais pas Piria Verivia, alors tu garantis pas, tu fais pas ce qu'il faut, on va dire, mais t'es pas du tout en charge de vérifier que le clan Israël va. Ok. C'est pas ton problème. Tu auras de l'idolâtrie, effectivement, ok, quelque chose. Hachem s'occupera de ça. Et donc, du coup, il dit à son cousin, il dit, donne-moi ta fille en mariage, peut-être avec nos mérites respectifs, on va limiter les dégâts. Même les dégâts les dégâts limités, ça donne ce fameux roi Menaché qui était un roi idolâtre, comme c'est pas possible. Ça, c'est les dégâts limités. Voilà, on va s'arrêter là.